frères et sœurs, que la grâce, la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous en ce jour où nous célébrons l'ascension du Fils de Dieu. Le jour de l'ascension, le 40e jour après Pâques, marque le jour où Jésus est allé au mont des Oliviers avec ses disciples et est monté au ciel sous leurs yeux. Bien que souvent négligé, l'ascension du Christ a une grande signification théologique. Elle signifie qu'au ciel, il y a quelqu'un qui a connu l'expérience de la souffrance et de la tentation. Quelqu'un qui prie pour nous et perfectionne nos prières. L'ascension est un témoignage et une garantie de notre propre résurrection, ainsi qu'une invitation pour nous à placer nos cœurs et nos esprits sur les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu pour régner sur toutes choses dans le ciel et dans tout l'univers. Heureux sont tous ceux qui se réfugient en lui. Je vous invite à chanter « À l'agneau sur son trône », Arc 327. À la prière. Ô Dieu très haut, notre Père, toi qui habites au plus haut des cieux, nous te louons. Ta gloire, ô Seigneur, est au-delà de toute pensée et de toute imagination. Nous célébrons la victoire de ton Fils Jésus qui a vaincu la mort et nous a sauvés du pouvoir du péché. Nous nous réjouissons de sa montée au ciel. Il est notre grand souverain sacrificateur qui nous a ouvert le chemin du lieu très saint. En son nom, nous voulons également entrer dans ta présence éternelle, car il est notre prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Que la louange, l'honneur et la gloire te soient rendus pour l'éternité, toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Le Fils unique de Dieu est venu sur terre sous la forme d'un serviteur. Il est maintenant intronisé à sa droite où il règne dans la gloire. Il règne aussi en roi dans nos cœurs. Puissions-nous nous réjouir de sa paix dans sa justice et son amour. Je vous invite à chanter « Tu es Dieu et ton trône est élevé ». J'aime 508. Le psaume qui a été choisi ce dimanche est le psaume 110, psaume de David. Nous lisons. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le spectre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. » L'Éternel l'a juré, et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite. Il écrase des rois le jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est rempli de cadavres. Il écrase des chefs sur tout le territoire. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Fin de citation. Ce psaume de David est une présentation simple et claire du Messie comme sacrificateur et roi. Les versets de ce psaume sont cités à de multiples reprises dans le Nouveau Testament. Par exemple, le verset 4 est cité 4 fois dans l'Épître aux Hébreux comme s'appliquant à Christ, dont le ministère de sacrificateur est supérieur à celui des Lévites. Il est sacrificateur, non pas selon l'ordre d'Aaron, mais celui de Melchisédek, qui était donc à bien des égards supérieur à celui d'Aaron. Melchisédek était sacrificateur et roi de Salem, de même que Christ est roi de justice et de paix. Melchisédek n'a pas eu de successeur, pas plus que Christ. C'est donc un sacerdoce immuable, qui ne change pas, qui est éternel. Selon ce psaume, c'est Dieu qui établit le Christ comme roi et sacrificateur. C'est en montant au ciel qu'il le devient effectivement. L'ascension nous rappelle que le christianisme n'est pas seulement une foi historique, mais celle du présent et du futur. Jésus est en ce moment sur le trône de l'univers, dans une humanité glorifiée, exerçant en tant que Dieu-homme toute autorité au ciel et sur la terre. Il n'est pas seulement un serviteur qui a souffert, est mort et ressuscité, mais il est un roi conquérant. Que Dieu nous aide à être conscients que Jésus est roi, qu'il règne sur tout et que rien ne lui échappe, même quand le ciel est sombre. Nous allons donc adorer ce grand roi qui nous comprend et qui nous défend. Je vous invite à chanter deux chants d'exo à la suite. Je veux n'être qu'à toi et Emmanuel.
Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme. je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus m'envoie. Je ne veux rien que vouloir. Son nom et ta fidélité, je veux n'être qu'à toi.
Tout à toi,
Jésus, je t'aime.
Jésus, je t'aime.
Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes mains. Je veux n'être qu'à toi.
Tout à toi,
Jésus.
Humilité et de joie.
Alors que nous célébrons l'ascension de notre Seigneur, notre façon de vivre traduit souvent notre manque de foi en son pouvoir et à sa seigneurie. Avouons l'incongruité qui existe entre notre foi et notre pratique. Je vous invite à la prière. Nous venons au Seigneur en ce jour de gloire confesser notre manque de confiance. Alors que nous chantons ta seigneurie sur toute la création, nous avons trop souvent agi comme si tu étais impuissant face aux événements d'aujourd'hui. Aide-nous à vivre avec confiance en ta présence maintenant et dans l'espoir de vivre avec toi pour toujours. Amen. Je vous invite à chanter « Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne » arc 407, strophe numéro 1, 2 et 3.
Seigneur, sois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés. Et ce pardon que tu nous donnes, enseigne-nous à le donner. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Jésus, je ne puis craindre que ton verdict de vérité. Il a subi, mais sans se plaindre, ce que j'avais seul mérité. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Écarterait tous les soutiens. Je ne pourrais pour ma défense que prononcer un nom le tien. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié, pitié de moi. Ô mon Seigneur,
bonjour les enfants, l'histoire que je vais vous raconter est l'histoire d'une famille. Une famille, somme toute, assez classique. Une famille composée d'un papa, d'une maman et d'un petit garçon. Le papa travaillait beaucoup, beaucoup, et la maman restait seule avec son fils pendant la journée à s'occuper de lui. Un soir, la maman dit au papa « Tu sais, chérie, j'ai l'impression que notre fils s'ennuie à la maison. Ne pourrions-nous pas faire quelque chose pour qu'il se sente moins seul ?» Le papa réfléchit et propose cette idée à son épouse. « Tu as raison, mon petit sucre d'orge. Comme c'est bientôt l'anniversaire de notre fiston, que penserais-tu de l'idée de lui acheter un chien pour lui tenir compagnie ?» La maman hésite l'espace d'une demi-seconde et accepte. Et à compter de ce jour, ils furent quatre dans la famille. Le papa, la maman, le fiston et le chien qu'ils avaient appelé Beefsteak. Dès le jour où Beefsteak arriva à la maison, lui et le petit garçon devinrent inséparables. Ils étaient les meilleurs amis du monde. Le petit garçon grimpait sur son dos, jouait avec lui, faisait de temps en temps la sieste avec lui dans son panier et mangeait même dans sa gamelle pendant que ses parents avaient le dos tourné. Le papa et la maman étaient ravis de cette complicité. Le temps passa et le petit garçon eut 3 ans, l'âge d'entrer à l'école maternelle. Pour son premier jour d'école, le petit garçon prit son cartable, salua Beefsteak, son meilleur copain, en lui donnant un bisou sur sa tête, et partit à l'école avec son papa. Et c'est là que quelque chose d'étrange se passa. À compter de ce jour, à chaque fois que le petit garçon partait à l'école et que la porte d'entrée se refermait, Beefsteak se plaçait devant cette porte et ne bougeait plus. Il restait là, comme figé, en attendant le retour de son petit maître. C'est seulement lorsqu'il rentrait de l'école que Beefsteak se remettait à courir partout et à faire le fou. Pour le papa et la maman, c'était assez problématique que Beefsteak ne bougeait pas de la journée. Il bloquait la porte d'entrée et obligeait l'aide ménagère à aspirer autour de lui lorsqu'elle faisait son travail. Le papa et la maman avaient pourtant tenté d'expliquer au chien que son petit maître allait rentrer à la fin de la journée et qu'il ne devait pas l'attendre comme ça, que la vie continuait, que son petit maître ne l'avait pas abandonné. Mais rien à faire. Beefsteak ne bougeait pas et attendait les pattes croisées. Les enfants, si je vous ai raconté cette histoire, c'est parce que jeudi était un jour particulier. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, étant donné le confinement, mais jeudi était un jour férié et nous fêtions l'Ascension. C'est-à-dire le moment où Jésus est monté au ciel quelque temps après sa résurrection. Pendant que Jésus montait au ciel, la Bible nous raconte que ses disciples étaient là, à le regarder monter. Et alors que Jésus n'était déjà plus visible, les disciples continuaient à fixer le ciel. Dans la Bible, en Actes 1, les versets 10 à 11, il est dit ceci. Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis, une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'en allait quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent près d'eux et leur dirent « Gens de la Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Fin de la lecture. Alors les enfants, vous voyez où je voulais en venir avec cette histoire ? Dans la Bible, pendant un instant, les disciples avaient adopté la même attitude que Beefsteak. Ils étaient là, à regarder et à attendre. Mais les anges leur ont dit que Jésus ne les avait pas quittés pour toujours, qu'il était monté pour un temps, mais qu'un jour, il reviendrait. Et pendant cette attente, Jésus a donné une mission à ceux qui croient en lui. En effet, il ne veut pas que les chrétiens se croisent les bras à attendre. Jésus veut que ceux qui croient en lui aillent partout dans le monde et parlent de lui pour que chacun comprenne qui il est et ce qu'il a fait pour lui. Voici donc la mission qui a été confiée à chacun d'entre nous. Te sens-tu de taille à l'accepter? N'aie pas peur. Dieu sera avec toi et il t'aidera. Alors, va avec la force que tu as, et Dieu fera le reste. Je vous invite à la prière.
Les enfants, qu'est-ce qu'on fait avant de prier?
On joint les mains, on baisse la tête, on ferme les yeux et on parle à Dieu.
Merci Seigneur de nous avoir donné des enfants dans notre communauté. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te demandons à ce moment de l'Ascension que nos enfants puissent avoir l'espérance qui vient de toi. Pendant cette période de confinement, qu'ils te mettent en première position. Nous te prions aussi pour nos ados qui passent des moments très difficiles. Seigneur, aide-les à se souvenir toujours de toi en ce moment de l'Ascension. Qu'ils puissent garder leur espérance envers toi jusqu'à ton retour, au nom de Jésus. Amen.
C'est le moment de la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, roi de toute la création. C'est par ta parole que tu nous enseignes. Ouvre nos cœurs à ton esprit et conduis-nous sur les chemins du Christ, ton Fils. Louange et gloire à toi pour toujours. Amen. Nous avons trois textes bibliques à lire. Le premier se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, versets 1 à 11. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il se leva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Le deuxième texte est tiré de la lettre aux Éphésiens, le chapitre 1, versets 15 à 23. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le troisième texte est tiré de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, le verset 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Je vous invite à chanter « Réjouis-toi, peuple fidèle », Harpe 33, deuxième strophe.
Ta voix résonne. frères et sœurs en Christ, jeudi dernier, c'était la fête de l'Ascension. Qu'est-ce que cela signifie encore pour nos contemporains qui, pour la plupart, ont par exemple réduit Noël à une fête de famille, au cours de laquelle des cadeaux sont offerts, et Pâques aux œufs en chocolat? L'Ascension ne serait-elle pas juste qu'un jour férié dont les racines sont religieuses, certes, mais dont on ne connaît pas le contenu? Qu'à cela ne tienne, c'est à nous qui la fêtons qu'incombe la tâche de redonner à la célébration tout son sens chrétien et ses couleurs. Nous nous poserons une question toute simple. Qu'est-ce que l'Ascension? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour le chrétien et pour l'Église qui, dans le symbole des apôtres, confesse et proclame aujourd'hui, en lien avec l'Ascension, je cite, « Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. » Nous allons tout d'abord résumer les faits autour de l'événement tel que Luc les rapporte dans le récit lu ce matin. Ensuite, nous allons chercher à donner du sens à partir de ce que l'Épître aux Éphésiens nous enseigne sur la position du Christ dans le ciel. C'est dans son premier chapitre, au verset 20 à 23. Quels sont les faits d'après le récit que Luc, dans le livre des Actes, nous donne? Eh bien, Jésus, le Fils de Dieu, a d'abord fait un mouvement descendant, c'est-à-dire qu'il est venu du ciel, de la présence du Père, de la gloire céleste, pour accomplir une mission sur la terre, à savoir le salut des hommes, le salut de l'humanité. Cette mission passait par l'incarnation, ce moment où le Fils de Dieu se dépouillait de sa gloire, où il voilait cette gloire. Ce moment passait aussi par les souffrances, par la mort et par la résurrection. Depuis que la résurrection a eu lieu, nous dit le texte du jour, Christ s'est montré à ses disciples pendant 40 jours. 40 évoque dans la symbolique biblique des nombres l'épreuve. Quelques exemples. Les 40 ans de traversée du désert par le peuple. 40 jours de jeûne de Moïse sur le mont Sinaï face à face avec Dieu pour recevoir la loi. 40 jours de jeûne et de prière de Jésus dans le désert où il est tenté avant de commencer son ministère public. Et ici, les 40 jours après la résurrection ont donc permis aux disciples d'éprouver la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est le mouvement descendant. L'ascension est le mouvement ascendant, le mouvement de la montée, le mouvement du retour du Fils de Dieu vers son Père, d'où il est venu. L'ascension signifie la fin de l'épreuve concernant la résurrection. Cette dernière est maintenant avérée. Puisque sa mission est achevée, logiquement Jésus, le Fils, retourne vers son Père. Du mont des Oliviers où Jésus a amené ses disciples, il s'élève sous leurs yeux et une nuée vient le soustraire au regard de ses disciples. Pendant qu'ils restent les yeux fixés vers le ciel, deux hommes en blanc leur disent « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Il y a un temps pour lever les yeux vers le ciel et un temps pour baisser le regard sur ce qui se passe sur la terre, car c'est le lieu de la vie concrète dans une réalité bien concrète. Après avoir évoqué ce que disait ce récit lu dans le livre des Actes, nous allons essayer de donner le sens de l'Ascension et son impact sur la vie de l'Église et du chrétien. Sans prétendre épuiser tout le sens de l'Ascension, nous en énumérons quelques aspects pour ensuite n'en développer qu'un seul d'entre eux. L'Ascension indique la fin du ministère terrestre de Jésus et un possible début de la mission de l'Église. L'Ascension indique la fin de la présence physique de Jésus auprès de ses disciples et ouvre la possibilité d'une nouvelle présence spirituelle, celle-là. Jésus accomplit désormais le ministère de souverain sacrificateur au moyen d'intercession dans les lieux célestes. L'Ascension symbolise la glorification et l'exaltation de Jésus, son élévation par le Père, et elle marque en même temps son retour à sa gloire céleste qu'il avait momentanément et volontairement quittée. Il est le souverain roi qui règne sur l'univers, visible et invisible. C'est ce dernier aspect que nous traiterons ensemble pendant un temps. L'Ascension signifie que Jésus est glorifié et exalté. Nous allons nous arrêter quelques instants sur cet aspect. En fait, le Père a glorifié le Fils en l'accueillant dans les lieux célestes pour le faire asseoir à sa droite. Une place d'honneur, un honneur suprême réservé au Christ et à lui seul. Être assis n'est pas ici question de la disposition du corps, mais la majesté, son empire, en sorte qu'être assis ne signifie pas autre chose que présider au trône céleste. L'image est prise du psaume 110, texte clé sur le sujet. Et je me permets de citer ce psaume. Oracle de l'Éternel à son Seigneur. Ou plutôt, oracle de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Le Seigneur est à ta droite. Il écrase des rois au jour de sa colère. Fin de citation. Être assis pour Jésus signifie exercer les prérogatives divines, les prérogatives de Seigneur. Et le premier acte du Seigneur glorifié sera d'envoyer le Saint-Esprit comme il l'avait promis. En un mot, le Christ a été élevé par son Père à la place suprême. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné au sommet de tout pour tête à l'Église qui est son corps. Dans la création, tout lui est soumis. Sa suprématie doit nécessairement s'affirmer un jour dans ce monde rebelle et soumis provisoirement à l'influence de l'usurpateur. Puisqu'il siège sur le trône divin, Jésus tient le gouvernement de l'histoire avec grand H, ce qui exprime le symbole du livre aux sept sceaux dans l'Apocalypse qu'il est seul capable d'ouvrir. L'Écriture nous donne une vision du monde que certains auront peut-être de la peine à admettre, et pourtant c'est la révélation que nous en donne l'Écriture. Les puissances, les autorités, les dominations sont ces agents spirituels qui jouent un rôle important dans les coulisses de l'histoire et qui influencent les tendances, les structures politiques et économiques. Dans le livre de Daniel, on nous annonçait la présence d'un esprit puissant qui régnait sur la Perse et qui a combattu l'ange envoyé à Daniel pour lui donner réponse à sa prière et qui eut recours à l'archange Michel pour avoir raison de cet esprit. Dans les coulisses de l'histoire, il y a donc des puissances à l'œuvre. Eh bien, Jésus s'est soumis toutes ces puissances, autorités et dominations. Croyez-moi, frères et sœurs, le Christ n'agit pas seulement en convertissant les cœurs et en inspirant son Église, ce qui n'est déjà pas rien. Il dirige aussi le devenir du monde avec toutes les ressources du gouvernement divin. Comme son Père, il est le souverain maître. Il se sert de n'importe qui, de n'importe quoi, pour réaliser ses desseins. Il est tout-puissant, pas pour faire n'importe quoi, mais pour dire que rien ni personne ne peut arrêter ses desseins, ses projets. Il se sert de qui il veut pour arriver à ses fins. Souvenons-nous qu'il s'est servi des rois païens pour punir son peuple. Nabuchodonosor, les Chaldéens, Cyrus et bien d'autres encore. Il s'est même servi d'un âne pour parler à Balaam. Il s'est servi des éléments de la nature, les 10 plaies en Égypte. Rien ne l'empêche de se servir même des mauvais esprits, pensez à Saül. Il est le Seigneur de l'univers, de toute la création visible et invisible. Le règne du Christ sur le monde est invisible en particulier parce qu'il n'anéantit pas instantanément l'opposition de ses adversaires. Ce n'est pas que ses ennemis échappent encore à sa souveraineté. Il a tous ses ennemis sous ses pieds, expression pour signifier qu'il les domine. Il les a déjà vaincus, mais ils doivent encore lâcher leur proie séduite ou terrorisée. Mes frères et sœurs, cet état des choses devrait conduire l'Église à reconnaître la Seigneurie du Christ et à lui offrir sans cesse un sacrifice de louange, une adoration et des actions de grâce. Cette position suprême invite l'Église à accorder la première place en toute chose à Christ, ce qui s'appelle aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toute son intelligence. Un amour exprimé par le service et par l'obéissance à l'enseignement de Jésus. Nous pouvons nous demander, est-ce vraiment ainsi que vit l'Église et le chrétien en son sein? Je vous propose, après avoir mentionné cette seigneurie de Jésus-Christ, je propose maintenant de passer pour réfléchir sur ce que cette position du Christ assis dans les lieux célestes impacte le vécu de l'Église. J'ai choisi de mettre en lien cet article du symbole des apôtres, « Il est monté au ciel où il est assis à la droite du Père », avec les trois vertus ou valeurs qui demeurent, à savoir l'amour, la foi et l'espérance. Et plutôt que de les développer amplement, j'esquisse quelques lignes et vous invite à poursuivre la méditation vous-même au moyen de quelques questions. Vivre l'amour ancré dans la souveraineté suprême du Christ. Ici vient tout de suite à l'esprit ce commandement, celui que Jésus a appelé le plus grand de tous les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs, la relation entre Dieu et les hommes est fondée sur l'amour parfait, c'est-à-dire l'agapé. Voilà pourquoi l'amour vient en premier. La nature de cet amour est surnaturelle. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'aide de celui qui est assis dans les lieux célestes à la droite du Père, et c'est lui qui nous accompagne sur ce chemin. J'ai fait le choix d'indiquer que, de nous-mêmes, nous sommes incapables de cet amour. C'est au travers de la réalité de la vie, à travers les épreuves, que notre amour grandit. Dieu se moque bien souvent de nos systématisations. Je n'ai donc aucune prétention à vouloir enfermer l'action de Dieu dans un schéma quelconque. Ceci est un simple exercice d'élucidation ou de réflexion. Dieu, sachons-le, est plus grand que nos schémas, quels qu'ils soient. C'est donc avec beaucoup d'humilité que je vous partage ce qui suit. La parole dernière appartient à Dieu seul. Aimer Dieu. Qu'est-ce donc? Aimer Dieu, c'est lui accorder la première place en tout. Le Seigneur Jésus nous a lui-même indiqué le chemin de l'amour. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements, c'est-à-dire celui qui les met en pratique. Il nous faut donc apprendre et découvrir ou redécouvrir la souveraine position que Jésus occupe. Et cela ne peut que nous pousser à l'adoration, à la louange, car il est digne de recevoir notre louange et notre adoration. Mes frères et sœurs, l'Église a à réfléchir sans cesse comment, dans le culte qu'elle rend au Seigneur de l'univers, comment ce culte rend le Seigneur digne, comment ce culte honore-t-il le Seigneur. Pendant son culte, devra-t-elle se presser ou bien prendre son temps pour que, même si un étranger à la vie en Christ la rejoigne, que par sa louange, il puisse avoir une très haute idée de Dieu? Nos cultes ne sont juste pas un court moment où les chrétiens se retrouvent, mais un moment où le Christ est au centre de la rencontre avec tout ce que cela comporte. Une parole centrée sur son honneur, sa gloire, et pas sur un homme aussi intelligent fut-il. Nos prédécesseurs dans la foi ne disaient-ils pas « Soli Deo Gloria » à Dieu seul la gloire. Puisqu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, l'amour passe par l'apprentissage à connaître l'être aimé. Deux amoureux ne brûlent-ils pas d'envie d'être ensemble? Le désir d'être ensemble prime sur beaucoup de choses, si bien qu'ils ne voient pas le temps passer. Puissions-nous montrer l'amour envers le souverain suprême par la diligence avec laquelle nous nous passionnons pour l'étude, la méditation de la parole de Dieu selon les trois paliers que j'avais évoqués dimanche dernier, à savoir l'affectif, le cérébral et le plus profond. Ou en contact avec la parole conjointe à l'esprit, nous nous laissons habiter, transformer, évangéliser, apaiser en profondeur par Dieu lui-même. Le Seigneur Jésus, encore sur cette terre, dans Jean 13, nous indiquait aussi un autre chemin de l'amour, par le lavement des pieds de ses disciples, travail d'habitude réservé aux esclaves. Il leur a dit « Vous m'appelez Seigneur, et je le suis. Vous voyez ce que je viens de faire? Faites-le de même, et vous serez heureux si vous le faites. » La voie du service est véritablement le chemin de la béatitude. On ne peut aimer sans servir. Alors on peut se poser les questions, et chacun de nous peut se la poser pour lui-même, mais on peut se poser aussi les mêmes questions en tant que communauté. Qu'est-ce qui constitue un obstacle chez vous pour que vous exprimiez votre amour au souverain Seigneur? Quelles sont vos idoles, à vous qui veulent usurper la première place du Seigneur, des Seigneurs, dans votre vie? Sachez que sur ce chemin de l'expression concrète de l'amour envers le Seigneur des Seigneurs, les tentations et les embûches sont une réalité. Pour avoir raison d'elle, vous pouvez compter sur celui qui est assis à la droite de Dieu, le Père, car il intercède pour vous et pour l'Église qui est son corps. Deuxième aspect, dans l'impact sur le vécu, vivre la foi enracinée dans le Christ, chef suprême de l'Église et de l'univers. Ce texte nous dit que Jésus est la tête de l'Église. Il est important, mes frères et sœurs, que nous puissions nous rendre bien compte que l'Église a son chef. Et c'est lui qu'il convient de mettre en première place. C'est lui qu'il convient d'écouter en premier. En son sein, c'est-à-dire dans cette Église qui appartient à Jésus-Christ, lorsque nous avons une responsabilité, il nous faut comprendre que c'est un travail à accomplir en toute fidélité par rapport au chef de l'Église. Si vous avez soif de pouvoir, eh bien vous êtes trompé de porte. aller faire plutôt de la politique ou bien tout autre métier. Là, vous pouvez assouvir la soif du pouvoir. Mais disons aussi que la connaissance émotionnelle et cérébrale ne sont qu'une étape sur la voie de la vraie connaissance et d'une foi profonde en celui qui est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Il faut davantage. Vous savez, on peut réciter les versets d'Éphésiens que nous avons relevés dans cette méditation qui nous révèle l'autorité, le pouvoir et la puissance de Jésus qui n'a aucune limite dans l'espace et dans le temps. On peut même les chanter, les restituer, mais cela ne créera pas la foi véritable. Il faut davantage, c'est-à-dire la grâce de Dieu qui nous rejoint, l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui fait naître la foi et qui l'affermit. Savoir que notre Seigneur est celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, le souverain Seigneur qui a le pouvoir absolu, universel et éternel ne suffit pas, disions-nous. Encore faut-il que nous le croyions. Mais comment y parvenir? La foi est un don de Dieu. On peut la demander. Et quand elle est présente, elle a besoin d'être affermie. Seigneur, veuille bien affermir notre foi en toi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Seigneur, donne-nous la volonté d'entendre la parole du Christ là où il a fait résonner. Puisse ton esprit nous venir en aide et nous affermir. Frères et sœurs, reconnaissons que nous avons foi, que le Seigneur peut tout dans certains domaines de notre vie personnelle et dans celle de l'Église. Le défi à relever, c'est de répertorier les domaines où nous, en tant qu'Église, communauté d'Ucle, en tant que personne, en tant qu'individu, avons difficile à croire, de les présenter à Dieu et de lui demander de nous venir en aide dans ces domaines-là afin que notre foi puisse s'y exercer. Je disais en commençant que je ne développerai pas amplement tous les aspects, mais que je vous demanderai de poursuivre le travail personnellement. Alors prenez maintenant quelques minutes ou même un peu plus tard, quelques minutes, pour que chacun, au fond de lui-même, répertorie ces domaines qui lui sont difficiles de croire et qui les apporte à notre Père dans la prière. Oui, il est le Seigneur absolu et universel. Soumettons-les à ce Seigneur et demandons-lui de nous venir en aide et de nous donner la foi qui nous fait croire que ces domaines-là aussi lui sont soumis. Est-ce la conversion des nôtres? Est-ce un problème sentimental, professionnel, un problème de santé, une situation sociale, une difficulté relationnelle, etc. Prenons un temps de prière intérieure. Seigneur, révèle-nous ton Fils tel que tu voudrais que nous le connaissions. Et pour terminer, ce dernier aspect, vivre l'espérance au Christ qui s'est soumis toute autorité, tout pouvoir, toute domination et qui en a fait son marchepied. Nous disions il y a 15 jours que l'espérance, c'est l'espoir que Dieu transforme. Dieu s'implique dans l'affaire. Il s'engage. Il promet de réaliser ce qu'il a promis. L'espérance est fondée sur Dieu et elle vient comme un don de Dieu à l'homme. Elle va au-delà du visible, du matériel. Elle se joue des limites humaines. Cette espérance est fondée sur les promesses de Dieu, sur la foi en ce Dieu fidèle. La certitude d'atteindre ce but ultime donne une force et une énergie de vie dans le présent, donne sens à ma pensée, à mon agir aujourd'hui. L'espérance est à la fois attente, confiance et patience, pour que dans le présent, ils vivent portés par les promesses de Dieu. L'espérance est un véritable antidote à l'inquiétude, à l'angoisse de l'avenir. Frères et sœurs, il va falloir adapter notre connaissance de Jésus-Christ. Ce n'est plus le petit Jésus, celui qui est monté, et le Seigneur majestueux qui mérite notre adoration, notre confiance. Il nous faut connaître ses promesses, vivre le regard toujours tendu vers l'horizon, désirer son retour et s'engager en même temps à sa suite, en dépit des apparences qui semblent contredire cette espérance. Notre espérance est à la fois attente et confiance en celui qui a tous les pouvoirs, tout le contraire des inquiétudes et de l'angoisse envers l'avenir. Voilà qui donne la mesure de celui qui nous a appelés à lui et a fait de nous son peuple. C'est celui qui a tout pouvoir entre ses mains. Dès lors, que pouvons-nous craindre pour notre avenir, pour l'avenir de l'Église? En méditant cette vérité, notre pensée devrait être nourrie par elle, nos actes devraient s'en inspirer et être empreints d'une assurance que le dernier mot appartient à celui qui a tout pouvoir. Cela devrait nous inciter à ne pas nous joindre si facilement au concert de ceux qui entonnent à longueur de journée des cantiques de gémissement, de plaintes, de défaites. Cela devrait nous pousser à prier davantage pour que le règne de notre Dieu, de notre Seigneur vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, à prier pour les autorités et à croire que le Seigneur Dieu se sert de n'importe qui, de n'importe quoi pour accomplir ses desseins. Qu'il peut plutôt canaliser même les œuvres des méchants au profit de ses desseins. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que Dieu le Père nous aime. Il ne nous abandonnera jamais. Christ exalté est assis à la droite du Père, intercédant pour nous, pour son Église. Cela est une garantie de la victoire finale. Le Christ glorifié accomplit un ministère d'intercession. C'est une promesse certaine et digne d'être reçue et crue. Pour autant, cela ne nous exonère nullement de combat. Il ne nous a pas promis que nous n'aurions aucune difficulté, mais il nous a promis sa présence. Le Saint-Esprit nous a été donné et il ne nous abandonnera jamais. Alors, en attendant ton retour, Seigneur, arme nos cœurs, arme nos bras, et nous serons plus que vainqueurs. Amen.
Unissons-nous pour chanter notre confession de foi. Nous croyons en Dieu le Père, Arc 773.
Nous croyons en Dieu le Père, Seigneur du ciel. tout-puissant, le Créateur. Nous croyons au Fils unique, Prince éternel, Roi pacifique. Jésus le Christ, le Rédempteur.
Jésus-Christ, médiateur et grand prêtre, nous te remercions d'être devenu humain et d'avoir expérimenté les joies et les peines de la vie, ce qui nous rassure parce que tu peux compatir et te réjouir avec nous. Nous te sommes reconnaissants pour les bienfaits que tu nous accordes. En tant que notre médiateur, tu te tiens devant Dieu, intercède pour nous, alors nous te présentons nos prières. Pour le monde, afin que les hommes et les femmes te connaissent et acceptent ta Seigneurie. Pour la Belgique et nos dirigeants pendant ce temps de crise sanitaire et économique, afin qu'ils aient la sagesse nécessaire pour le bien de tous et surtout des plus fragiles. Pour l'Église à travers le monde, soutiens-la et prends en compte son souci de se réunir à nouveau dans différentes communautés. Garde ceux de nos frères et sœurs qui sont persécutés. Pour notre communauté d'Ucle, ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir et savourer la beauté du Christ ressuscité. Aide-nous à te servir et à nous occuper de notre prochain pour la gloire de ton nom. Souviens-toi de ceux qui sont malades et en difficulté. Nous prions ainsi en ton puissant nom, Christ, notre médiateur et grand prêtre. Amen. C'est le moment des annonces. Tant que le confinement est en vigueur, nous nous retrouverons sur Internet. Notre offrande peut se faire par virement sur le compte de l'Église. J'invite le pasteur pour l'exhortation et la bénédiction et nous terminerons par ce chant « Grand Dieu, nous te bénissons » arc 243.
Je vous invite, frères et sœurs, à recevoir la bénédiction de la part de Dieu notre Père, mais auparavant, écoutons cette exhortation. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous sommes à la recherche de la cité future. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. N'oubliez pas la bienfaisance et l'entraide communautaire, car ce sont des tels sacrifices qui plaisent à Dieu. Obéissez à vos dirigeants et soyez-leur dociles, car ils veillent personnellement sur vos âmes, puisqu'ils en rendront compte. Ainsi pourront-ils le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne tournerait pas à votre avantage. L'exhortation est tirée de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, les versets 14 à 17. Que le Dieu de la paix, qui a fait remonter d'entre les morts, par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il réalise en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Nous croyons que Christ est assis dans les lieux célestes à la droite du Père. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Allons apporter à tous cette bonne nouvelle, à tous ceux qui croiseront notre route. Amen.